Eric Cohen m'a demandé de vous retracer en quelques dizaines de minutes, je vais essayer de ne pas être trop long, l'itinéraire d'un militant, l'itinéraire qui a été le mien, depuis que, étudiant à la Cité universitaire en 1934, nous avons fondé avec quelques amis bretons, non seulement le cercle des étudiants bretons de Paris, mais aussi à Brézon-les-Cascoles, Union pour l'enseignement du breton. C'est toujours un peu gênant de parler de soi-même, surtout lorsqu'on s'identifie à une cause comme je l'ai fait pratiquement toute mon existence, mais je voudrais pour ma modestie et vous simplement lire le passage qui débute ce dernier livre, qui est le premier tome de mes mémoires. C'est une citation de Dante Alighieri. Dante Alighieri dit que parler de soi-même nous paraît indécent, car il n'est point d'homme qui soit vraiment capable de se juger et de s'apprécier lui-même, tant nous trompe l'amour de ce qui nous est propre. Toutefois, il y a forcément certaines occasions où parler de soi est permis, et parmi celles-ci deux surtout, l'une lorsqu'à moins de parler de soi, l'on risque infamie ou danger. L'autre, quand parler de soi est utile à l'enseignement des autres. Ce qui me pousse ici, c'est la crainte des médisances et le désir d'enseigner.
On vous entend mal, donc on ne parle pas.
Alors, la citation est de Dante Alighieri, qui signe Florentin de naissance, mais non de mœurs. Nous connaissons d'autres Florentins de nos jours qui sont probablement de mœurs, mais pas de naissance. Il y en a un certain nombre. Donc, je m'excuse, mais je serai obligé de parler de temps en temps de moi-même en m'identifiant un peu avec la cause que j'ai servie et que je continue à servir. Vous savez, je suis breton, bien sûr, peuple qui est le mien et dans lequel je me reconnais. Je ne suis pas né en Bretagne, je suis né en Gascogne de parents bretons, mais cela ne m'a pas fait être gascon pour autant. Et cela rejoint un peu le débat qui, dans les milieux politiques et intellectuels de nos jours, se déroule dans d'autres circonstances. Rapidement, après des études à la faculté de droit, aux sciences politiques, même à la faculté des lettres, je suis devenu un des serviteurs de l'État suivant une tradition familiale qui était la mienne. Je n'en étais pas moins membre de ma patrie, de la Bretagne, dans laquelle je me reconnaissais. Et il s'est trouvé que j'étais fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, au service d'un État centralisé, jacobin, et qui, petit à petit, se dévoilait à moi sous son véritable visage, c'est-à-dire un visage qui n'était pas celui d'un État libéral tel que celui que nous pouvions rêver, car la Bretagne en souffrait, et je m'en suis aperçu très rapidement. Elle souffrait de ce régime, de ce système centraliste, qui l'empêchait de demeurer elle-même, et de réaliser véritablement la défense de son identité comme la défense de ses intérêts propres. Mes voyages accomplis quand j'étais étudiant et aussi après comme membre d'organisations de jeunesse fédéralistes m'ont amené à différents coins de l'Europe et je me suis aperçu petit à petit que le problème breton n'était pas un problème isolé, qu'il existait un peu partout dans l'Europe que je parcourais. Il y avait donc là un peu une contradiction. J'étais au service d'un État qui voulait forger l'identité française, mais qui, pour ce faire, oubliait qu'il y avait des identités autres qui, elles aussi, voulaient s'exprimer et conserver leurs particularismes. Contradiction, bien sûr, que j'ai rencontrée toute ma vie, car il fallait trouver un moyen, un système par lequel la Bretagne pourrait rester elle-même au sein de la France ou ailleurs, et un système aussi par lequel la France pourrait accomplir une mutation au sein de l'Europe sans rester une sorte de prison des peuples qu'elle était véritablement pour certains d'entre nous, pas pour tous les Français bien entendu, mais pour ceux qui n'étaient pas seulement Français, mais qui étaient aussi Bretons ou Basques ou Alsaciens ou Corses ou même Occitans. Donc voilà le début de mon action politique, et je crois que la première chose que j'ai faite, ça a été d'affirmer cette identité bretonne par la création justement d'un Brazon-le-Cascole, qui était l'Union pour l'enseignement du breton à l'école, fondée ici à la Cité universitaire en 1934. Pour moi, ce n'était pas seulement un moyen, si vous voulez, de sauver la langue bretonne, qui évidemment, comme toutes les langues moins répandues, a tendance à disparaître avec les masses médias que nous connaissons, mais c'était un moyen d'éveiller la conscience politique d'un peuple qui avait tendance à oublier son destin collectif, c'est-à-dire à oublier qu'il était lui-même et qu'il fallait, pour la survie de sa culture, qu'il fallait qu'il reste lui-même. Alors, c'était pas facile, parce que il y avait bien en Bretagne à l'époque déjà des mouvements d'action politique qui oscillaient un peu de l'extrême à la modération. Il y avait une aile nationaliste bretonne et qui n'avait pas, à l'époque en tous les cas, d'assise populaire solide et qui s'orientait petit à petit soit vers l'indépendantisme, soit vers le fédéralisme. Il y avait aussi une aile régionaliste, mais qui, elle non plus, avait perdu une sorte d'assise populaire parce qu'on l'identifiait trop souvent avec le conservatisme. Et c'est dans les milieux que je fréquentais, bien sûr, et on nous reprochait toujours, mais votre histoire de vouloir sauver la langue bretonne, de vouloir sauver l'identité de votre peuple, c'est un jeu d'intellectuel. Ça n'intéresse personne. Alors j'ai voulu, et nous avons voulu, combler, sur ce point précis, l'écart qu'il y avait entre l'avant-garde du mouvement breton et la population bretonne. Il y avait certainement la nécessité de démontrer aussi, ne fût-ce que pour répondre à nos détracteurs, que ce mouvement de conservation d'une identité populaire et nationale avait une assise populaire. Alors l'action principale dans Brazon-le-Cascole a consisté à vouloir démontrer que ce soutien existait dans la population. Et nous avons commencé par soumettre des vœux aux conseils municipaux de Bretagne demandant l'enseignement du breton dans les écoles. Campagne que beaucoup pensaient vouée à l'échec, mais qui en réalité a eu beaucoup de succès. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la majorité, la grande majorité des conseils municipaux de Bretagne avait demandé sur nos instances l'enseignement de la langue bretonne dans les écoles. Nous avons continué cette campagne jusqu'à la veille de la guerre. Et nous nous sommes les uns et les autres plus ou moins épuisés en démarche, en mouvement d'opinion, en manifestation, en démarche accompagnée dans les ministères par nos parlementaires, par d'autres personnalités, toujours en nous heurtant à ce monolithisme de l'État central qui était fidèle à ce qui était sa raison d'être et la base de sa construction, un peuple, une nation, une langue. D'autres disaient un peuple, un chef, un État, mais les Français disaient un peuple, un État, une langue. Il n'y a pas grande différence. Et malheureusement, nos efforts à la veille de la guerre n'avaient pas abouti. Cela n'alla pas plus loin qu'un vote unanime de la commission de l'enseignement de la Chambre des députés qui demanda, comme nous le demandions, que enfin la France reconnaisse le droit culturel de la Bretagne à exister. La proposition de loi qui avait été préparée par un député breton du Finistère et soutenue par l'abbé Desgranges, député breton du Morbihan, qui n'était pas breton d'origine, avait été adopté par la commission à l'unanimité, mais jamais le gouvernement n'avait accepté de la mettre à l'ordre du jour de la Chambre des députés. Cela m'a évidemment aussi petit à petit amené à changer certaines positions. J'avais compris que cet État que je servais n'admettait pas la diversité. Ça n'existait pas. Non, il y avait une France, il fallait faire fabriquer des Français, même parmi ceux qui, à l'origine, ne l'étaient point, ou même parmi ceux qui ne voulaient pas. Alors je me suis dit que rien ne serait obtenu des structures centralistes de cet État si les Bretons eux-mêmes n'avaient pas enfin conquis le droit de appliquer eux-mêmes les décisions qu'ils pensaient devoir être nécessaires à la maintien, au maintien et à la survie de ce peuple. Il n'y avait pas possibilité d'avancer si les Bretons eux-mêmes ne conquéraient pas le droit, la compétence de décider d'abord, et ensuite le pouvoir d'appliquer. Les deux sont inséparables. Car une liberté qui n'a pas les moyens de s'exercer n'est pas une liberté. Ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'un attrape-nigaud. Et cela implique automatiquement la nécessité d'une certaine autonomie politique. Je ne dis pas de l'indépendance, je dis une certaine autonomie politique. Et nous en étions donc restés là, à la veille de la guerre. Alors, j'ouvre, si vous voulez, le deuxième chapitre de cet itinéraire, c'est la période de 1940 à 1944. Période difficile, douloureuse, incertaine. Il y avait une situation entièrement nouvelle. Nous n'avions plus affaire seulement à un État, à une administration. Nous avions affaire à deux forces qui, évidemment, s'opposaient ou s'alliaient ou se détachaient l'une l'autre, selon les circonstances et selon les événements. Il y avait à la fois l'administration française qui subsistait, qui, grâce à l'armistice, avait conservé l'administration pratique de l'État, dans les deux zones d'ailleurs, zone occupée comme zone non occupée, et il y avait les autorités allemandes. Il en sortait quand même, malgré que grâce à la collaboration franco-allemande pratiquée par le gouvernement de Vichy, avait pu conserver l'administration totale du territoire français, il y avait quand même le fait que ce pouvoir central français maintenu était fortement affaibli par les circonstances. Or, lorsqu'il s'agit d'un match de boxe, on sait bien qu'il faut essayer de frapper là où la personne est affaiblie. Et c'était le cas de la France à l'époque. Il y avait bien un mouvement indépendantiste, séparatiste, qui s'était fait jour et qui avait voulu essayer de construire l'indépendance de la Bretagne à l'occasion de la défaite française. Mais la tentative avait raté parce que justement était intervenu ce fait capital qui était l'adoption par le gouvernement français de Vichy de la politique de collaboration avec l'Allemagne qui occupait une partie de la France. Alors, est-ce qu'il fallait essayer d'arracher à ce gouvernement qui était affaibli par les circonstances l'autonomie politique, culturelle de la Bretagne. La tentative de coup d'État séparatiste était ratée. J'ai pensé qu'il fallait essayer de jouer le jeu de la réforme que le gouvernement français se déclarait prêt à appliquer, c'est-à-dire la réforme qu'on appelait à l'époque provinciale, qui consisterait à donner aux différents pays de France, aux différentes régions, des libertés politiques, administratives, culturelles et financières. Mais ici encore, il fallait créer un mouvement d'opinion en Bretagne et ailleurs. C'est la raison pour laquelle je pensais à l'époque qu'il était nécessaire de créer une sorte de mouvement qui soit distinct de la politique indépendantiste que poursuivait avec des fortunes diverses le mouvement nationaliste breton traditionnel. C'est pour ça que j'avais dirigé mon action à l'époque dans deux directions. La création d'un quotidien breton qui agiterait le programme d'autonomie politique, de régionalisme poussé, si vous voulez, que nous défendions, qui avait pour rôle de gagner l'opinion bretonne à cette thèse ou à cette nécessité. Et il y avait aussi, parallèlement, la poursuite de la méthode d'Arbrezon-Eckerskoll, qui était de soumettre des vœux, des pétitions, des requêtes aux personnalités du pays. Et dès le début de l'occupation, dès après les accords de Montoire, un défilé presque ininterrompu de parlementaires bretons se sont succédés à Vichy pour essayer d'obtenir du gouvernement du maréchal Pétain la création des provinces dont il parlait, mais que l'administration ne réalisait pas. Car dès cette époque-là, je m'étais aperçu aussi que le gouvernement pouvait dire ce qu'il voulait. C'était pas le gouvernement, c'est toujours pas le gouvernement qui gouverne, c'est l'administration. Ce sont les hauts fonctionnaires qui, étant installés dans leur poste, dans leur retranchement, ne cèdent pas le terrain aussi facilement que ne peut le céder un parlementaire ou un homme politique, toujours soucieux de l'opinion de ses administrés ou de ses concitoyens. Alors cette tentative de donner à la Bretagne un statut particulier dans le cadre français, il ne s'agissait pas d'en sortir, avait donc été soutenue par ses pétitions, ses vœux, ses démarches, et en même temps appuyée très fortement par la propagande du quotidien que je dirigeais. Les notables bretons s'étaient, dans leur immense majorité, ralliés au gouvernement de Vichy. Il y avait bien une petite dissidence à l'époque, mais on en parlait guère, et il y a aussi aujourd'hui beaucoup de gens qui disent qu'ils ont entendu l'appel du général de Gaulle au mois de juin 1940. Mais peu de personnes, en fait, l'avaient entendu. Petit à petit, il y a naturellement eu de plus en plus de gens à l'avoir entendu, ce qui est normal. On vient toujours au secours de la victoire. C'est plus rassurant et plus facile. Et cette politique s'est poursuivie pendant toute l'occupation. Et cette fois-là, grâce sans doute à cette propagande, et aussi au fait que ce gouvernement était affaibli, malgré tout, par la défaite, nous avons fini par obtenir un certain nombre de concessions. C'est de là qu'est né le comité consultatif de Bretagne. La première assemblée bretonne qui, en tant que telle, a représenté la Bretagne auprès du pouvoir central auprès du gouvernement et du représentant du gouvernement en Bretagne, la première depuis la suppression des États de Bretagne par la Révolution française en 1791. Naturellement, les pouvoirs du comité étaient très limités. Mais le fait important était que seul, dans l'ensemble français de l'époque, seule la Bretagne a bénéficié de cette assemblée et en somme de ce début d'institution propre, d'institution personnelle, qui lui permettait de s'occuper enfin de ce qu'il a regardé et de ses affaires propres, la défense de sa langue, de sa culture, de son identité et des différents intérêts qui étaient les siens et qui étaient différents des intérêts de la France en général. Évidemment, les pouvoirs du comité n'étaient que consultatifs. Évidemment aussi, ses membres n'étaient pas élus à cause des circonstances. Ils étaient désignés par le représentant de l'État. Le fait essentiel était quand même que cette première assemblée bretonne depuis la Révolution française existait. Elle était capable de représenter la Bretagne en tant que collectivité distincte au sein de l'État français. Et c'est en tant que telle que cette Assemblée, après avoir obtenu un certain nombre de concessions d'ordre culturel, enseignement de l'histoire de Bretagne, enseignement de la langue bretonne dans certaines circonstances, a aussi adopté, dans une de ses premières séances, une sorte de statut d'autonomie. Statut d'autonomie politique, financière, administrative et culturelle, très semblable au statut politique qui était le sien jusqu'à la Révolution française. Je n'ai pas ici à vous apprendre que la Bretagne, après avoir été un État indépendant pendant un millier d'années, a été un État autonome au sein de la France depuis l'union de la Bretagne et la France conclue à l'occasion du traité de 1532 signé et d'accord entre la monarchie française qui représentait l'État français et les représentants de la nation bretonne qui étaient réunis dans les États de Bretagne, assemblée représentative de la nation bretonne. Ce statut prévoyait bien entendu les organes classiques d'un statut d'autonomie, c'est-à-dire une assemblée élue par les Bretons lorsqu'on pourrait faire des élections, un exécutif ou gouvernement breton qui dirigerait une administration bretonne chargée d'appliquer elle-même les décisions qui pourraient être prises sur le plan breton par l'Assemblée de la Bretagne. Attribution législative, économique, financière et surtout demande d'une totale autonomie culturelle. Nous sommes toujours à cette même revendication et nous demandons toujours à l'heure actuelle, que cette autonomie culturelle soit respectée et garantie. C'est-à-dire que, en termes modernes, nous luttons pour la suppression totale du ministère centralisé de l'éducation nationale et son remplacement par des ministères régionaux qui s'occuperaient justement sur le modèle allemand, sur le modèle italien, sur le modèle basque ou espagnol, de ce qui concerne la vie culturelle de la collectivité bretonne. Et dans mon journal, bien entendu, je traçais petit à petit l'image de ce que devait être la Bretagne de demain avec son autonomie politique, administrative et financière. Bien sûr, vous savez, tout cela n'a pas abouti parce que on ne part pas dans une entreprise de ce genre avec des idées préconçues. Petit à petit se bâtit la doctrine, se bâtit pragmatiquement les nécessités qui répondent aux nécessités et aux besoins de la population ou de ses intérêts. Alors, on m'a dit bien sûr que lorsque j'ai créé cette institution, et il y a un de mes amis ici qui les a suivis de près avec moi, puisque il a été à l'époque au cabinet du préfet régional de Bretagne qui avait créé justement ce comité consultatif de Bretagne. On m'a dit bien sûr que le moment était mal choisi, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que il est très difficile de savoir quand un moment est bien choisi. Il y a des gens qui passent leur vie à attendre le moment. Mais ce moment ne vient jamais. Alors, faut-il se résigner à rester dans son fauteuil et à ne rien faire? Ça, c'est un problème que je n'ai jamais pu entièrement résoudre, même moi-même. Mais en tout cas, je pensais qu'il fallait le faire. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis aussi, il faut dire qu'à l'époque où le quotidien La Bretagne a été créé, en 1941, personne ne pouvait encore prévoir le sort réel de la guerre. Personnellement, j'ai cessé de croire en la victoire allemande lorsque les troupes allemandes sont entrées en Russie. Mais depuis, on a dit que si elles étaient entrées en Russie, c'était parce que s'ils ne l'avaient pas fait, c'était les troupes russes qui seraient entrées en Allemagne pour conquérir non seulement l'Allemagne, mais encore l'Europe tout entière. Enfin, le fait est aussi que peut-être mes études historiques et mes soucis du fédéralisme et d'une construction harmonieuse d'un continent qui se cherchait quand même déjà, j'ai toujours considéré, si vous voulez, les rapports entre la France et la Bretagne comme des rapports d'État à État, de peuple à peuple. Et le traité de 1432 avait très réellement concrétisé cette nécessité. Alors bien sûr, malheureusement, je ne peux pas regretter bien sûr les événements qui se sont passés, mais je pensais aussi que la situation de 1940 avait marqué simplement avec un changement de régime, mais surtout un changement de gouvernement, parce que le régime n'avait pas changé. Il restait tel qu'il était. C'était un changement de gouvernement qui avait amené ces bouleversements dans la structure de la France. Alors je pensais aussi, et là je me suis trompé, que ce que nous aurions conquis, même pendant une période aussi troublée que celle-là, ne nous serait pas enlevé. S'il s'agissait d'un changement de gouvernement, il est en général traditionnel que le gouvernement qui succède au premier ne bouleverse pas entièrement ce que le gouvernement précédent a fait. C'est impossible, en général. Alors là, évidemment, je me suis trompé, car nous n'avons pas assisté à un changement de gouvernement. Nous avons assisté à une révolution, une nouvelle révolution, qui a abouti à la fois aux excès d'une révolution qui a été sanglante aussi. On n'en parle pas, c'est pas très avisé d'en parler, mais je ne me suis jamais privé de le faire. Et de cette révolution, j'ai été aussi, comme beaucoup d'autres, l'une des victimes. Et ce que nous avions conquis a été anéanti. Tout ce que nous avions obtenu, liberté culturelle, enseignement du breton, enseignement de l'histoire de Bretagne, assemblée représentative de la Bretagne, tout cela a été supprimé. Alors je ne vais pas vous parler bien sûr de la période qui en ce qui me concerne a suivi, prison, exil, qui fait que de rédacteur au ministère de l'Intérieur et de sous-préfet, je suis devenu marchand de langoustes sur la côte ouest de l'Irlande. Période qui a duré 10 ans, à peu près, mais au cours de laquelle je n'avais jamais oublié quand même le combat que je menais. La situation, évidemment révolutionnaire, ne peut pas durer toujours, et petit à petit, les passions se calmaient, et il fallait surveiller un peu que tout cela pouvait donner. Je n'avais jamais abandonné l'idée de rentrer chez moi. Non, ce n'était pas mon genre. Alors je suis revenu, mais je ne voulais pas revenir amnistié. Je ne voulais pas revenir en disant que c'était le gouvernement qui m'avait pardonné et que je profitais d'une amnistie pour revenir, non pas pour accomplir la peine de travaux forcés aux perpétuités à laquelle on m'avait condamné, mais pour pouvoir leur dire vous vous êtes trompé sur ce que vous avez fait. Et c'est ainsi qu'en 1955, devant le tribunal militaire de Paris, j'ai été acquitté de tout ce que l'on m'avait reproché. Alors là, bien sûr, je me suis trouvé encore devant une situation entièrement nouvelle. Tout ce qui avait été fait par nous, et le mouvement breton en général, avait été oublié, effacé. On essayait de ne plus en parler. Et il y avait un effacement surtout de toute expression politique possible du mouvement breton, d'esprit régionaliste, comme d'esprit nationaliste ou indépendantiste. Il y avait à cela des causes très précises. Il y avait la crainte, il y avait la peur, et je m'en suis rendu compte en revenant. Lorsque nous étions en exil, avec un petit groupe d'exilés au Pays de Galles, puis en Irlande, nous publions un petit bulletin que nous intitulions d'une manière très prétentieuse, peut-être, Breton National News Service, qui voulait donner des informations sur la Bretagne et le mouvement breton et ce qui se passait en Bretagne à la presse internationale. Un de nos lecteurs écossais s'était rendu en Bretagne pour vérifier si vraiment ce que nous disions était exact et correct. Et il nous avait écrit, à la retour de son voyage, et il nous avait dit, je n'ai pas pu trouver une seule personne en Bretagne qui veuille se dire nationaliste breton. On m'a dit, oh, les nationalistes bretons, il n'y en a plus. Ils sont tous morts, ou fusillés, ou en prison. Et jusqu'en 1952, lors d'une séance, un mariage, en Basse-Bretagne quelque part, un jeune breton d'une quinzaine d'années a voulu entonner une chanson bretonne. Sa mère l'a arrêté. Petit malheureux, tais-toi donc. Petit malheureux, tu ne sais pas qu'on a mis des gens en prison il n'y a pas longtemps, pour bien moins que ça. Il y avait ça existé, vous vous en êtes pas rendu compte, peut-être. Mais cela existait. Et je l'ai trouvé encore lorsque je suis revenu et lorsque j'ai fait la tournée, si vous voulez, de mes anciens amis politiques et amis tout court. Il y avait bien la défense des intérêts culturels se reprenait. Le mouvement culturel breton se développait petit à petit. Il y avait aussi, grâce à Joseph Martreille, quelques parlementaires bretons, la défense des intérêts économiques de la Bretagne s'était organisée. Petit à petit, le CELIB avait pris naissance. La défense des intérêts bretons en dehors de toute considération idéologique, c'est-à-dire alliance des représentants de la Bretagne pour la défense des intérêts propres du pays, sans qu'interviennent les histoires de droite, de gauche ou idéologiquement différentes les uns des autres. Seulement, on ne pouvait pas encore, il n'y avait pas encore d'expression politique proprement dite de cette nouvelle poussée de défense des intérêts culturels ou de défense des intérêts économiques de la Bretagne. Or, j'étais toujours convaincu, d'après mes expériences personnelles, que tout cela serait voué à l'impuissance, que ce soit la défense de la culture, que ce soit la défense des intérêts économiques, s'il n'y avait pas moyen d'appliquer une politique qui serait déterminée par les Bretons eux-mêmes et par eux seuls, dans le respect bien sûr des accords ou de la solidarité avec les autres régions du continent, mais l'autonomie politique était de plus en plus nécessaire. Or, sortir de l'économie, sortir de la culture, qui n'aboutirait à rien, à mon avis, s'il n'y avait pas les moyens pour les Bretons d'appliquer eux-mêmes ce qu'ils avaient décidé de faire pour leur pays. Il n'y avait pas de pouvoir concret pour réaliser tout ce qu'ils demandaient. Or, il ne peut pas y avoir de liberté si on se borne à demander, à quémander, s'il n'y a pas des principes d'administration et de politique qui vous permettent à la représentation d'une région ou d'une nation, comme vous l'avez bien appelé, de la Bretagne, de décider elle-même de ce qui serait bon pour elle et d'appliquer elle-même les mesures qu'elle aurait décidé d'appliquer. Il y avait la nécessité, à mon sens, d'un prolongement politique de l'action culturelle, du mouvement culturel breton et de l'action économique du CELIP. Et ça, ça a été la genèse du MOB, Mouvement pour l'Organisation de la Bretagne, dont je suis heureux aussi de saluer ici quelques-uns de ceux qui ont été les fondateurs ou qui se sont liés à cette action. Après donc mon acquittement, dans la mesure où les nécessités financières et personnelles me demandaient, je suis revenu assez souvent en Bretagne pour écouter surtout, pour consulter, pour méditer aussi sur ce qu'il était possible de faire. Or, je me suis vite aperçu que justement à cause de cette peur et de cette crainte qui subsistait parmi les meilleurs, souvent, de ceux qui s'étaient battus avec nous, parmi tous les rescapés, si vous voulez, de l'ancien mouvement politique, qu'il ait été indépendantiste ou séparatiste ou fédéraliste ou autonomiste, eh bien, il n'y avait plus personne sur qui l'on pouvait vraiment compter. Ils étaient tous plus ou moins découragés. Ils avaient été si près du but qu'ils recherchaient qu'ils étaient tombés de plus haut. Ils avaient tous des complexes. On avait l'impression qu'on leur avait changé, qu'on leur avait lavé le cerveau, que vraiment ils se trouvaient presque coupables. Parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient coupables, qu'on les avait convaincus qu'ils étaient coupables, qu'on avait condamné certains d'entre eux pour les convaincre qu'ils étaient coupables d'avoir suivi pendant les années précédentes une politique autonomiste ou nationaliste ou séparatiste. Ces complexes-là, il fallait les vaincre, mais je me suis aperçu donc qu'il fallait surtout compter sur des nouveaux, sur une nouvelle génération pour le faire. Il fallait essayer de remonter un peu ce qui était l'ambition de nos années d'étudiants, continuer vers des objectifs peut-être plus modestes, mais aussi plus clairs peut-être, cette action vers la demande d'une autonomie politique et culturelle que j'estimais toujours nécessaire. Modération était nécessaire, certes, mais il fallait aussi prolonger donc politiquement l'action de tous ces mouvements qui renaissaient en leur donnant un contenu politique, mais en se plaçant résolument hors d'une politique purement hexagonale, c'est-à-dire que l'action apolitique du CELIP sur le plan économique devait avoir son correspondant et sa réplique sur le plan politique. Donc il fallait essayer de transformer des revendications régionales en une sorte de politique régionaliste qui n'hésiterait pas à dire son nom et qui automatiquement devait arriver à bâtir petit à petit cette politique régionale, régionaliste, qui pourrait doter la Bretagne, justement, des organes d'administration et de gouvernement, sans lesquels aucune de ces autres revendications ne pourrait aboutir. C'est donc encore vers la poursuite de cette autonomie politique régionale que s'est orienté le MOB qui a été créé en 1957, à la fin de 1957. Le mouvement pour l'organisation de la Bretagne a été la matrice, si on peut s'exprimer ainsi, de tous les mouvements et partis politiques bretons qui lui ont succédé. À l'époque, il était impossible de savoir ce que tout cela allait donner. Il fallait semer, et quand on sème, on ne sait jamais quelles sont les récoltes que l'on peut avoir. Ce sont quand même les militants du MOB qui sont à l'origine de tous les partis politiques bretons, dont certains existent toujours, et qui se sont succédés depuis sa création. Ce sont eux qui ont créé, après des scissions diverses, aussi bien l'Union démocratie bretonne que le Strolavro ou le Parti pour l'organisation d'une Bretagne libre et autres mouvements, voire même une certaine aile dure qui s'est rencontrée dans le FLB, Fonds de libération de la Bretagne. Cela est nécessaire, c'est normal, que petit à petit, lorsqu'un mouvement en naissance et qu'il se développe, que sa politique ou ses buts se répandent, qu'il y ait peu à peu une sorte de généralisation et de différenciation qui se produit petit à petit. Actuellement donc, le MOB n'existe plus, il a duré 10 ans et il a pensé que sa tâche était à peu près accomplie parce que d'autres mouvements semblables, similaires, continuent à lutter pour les objectifs qui étaient le sien. Ça a été une sorte d'opération réveil, peut-on dire, sans doute, qui a complété sur le plan politique, sur le plan des institutions et de l'autonomie, les efforts du mouvement culturel et du mouvement de défense des intérêts économiques. Mais là aussi, on peut dire que dès le début, ce mouvement a été battu en brèche par les structures techno-bureaucratique de l'État français. Nous sommes heurtés au même obstacle, car, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'administration ne change pas, même si le gouvernement change. Et ce ne sont pas, malgré les apparences, qu'on leur laisse. Ce n'est pas le gouvernement centraliste de la France qui change, c'est l'administration centraliste de la France qui continue. Et cela, ça survit à tous les régimes, à toutes les idéologies et à toutes les bonnes volontés que le gouvernement peut déployer. Cette offensive contre ces idées de défense de l'identité bretonne et du régionalisme s'est accentuée après 1962, lorsqu'il y a eu une majorité, une chambre introuvable, peut-on dire, ceci dit sans animosité, vis-à-vis des partis politiques et des uns et des autres qui ont pu y participer. Mais ce moment-là, s'est ouvert quand même une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension-là, il faut savoir l'exploiter, la diriger, la découvrir, l'utiliser, pourrait même-t-on dire. Ça a été aussi, ça, une autre contribution, si vous voulez, du MOB, du MOB. Je n'aime pas beaucoup le mot MOB parce que ça, en anglo-saxon, cela a une connotation différente. Mais enfin, je préfère parler du mouvement pour l'organisation de la Bretagne. Parce que, à ce moment-là, il y a aussi, en Bretagne, le développement d'une ouverture sur l'Europe. Le mouvement breton a de tout temps recherché des alliés et des compréhensions dans les autres points de l'Europe où existent des problèmes similaires à ceux auxquels il a à faire face. Cette dimension européenne a été découverte de bonne heure par le mouvement breton. Le parti autonomiste breton des années 30-40 avait déjà créé un comité des minorités nationales de France en nous alliant avec des Flamands, des Alsaciens, des Basques, de façon à essayer une action commune contre des structures politiques et administratives centralistes dont nous souffrions tous également, pas seulement la Bretagne qui en souffrait. C'était aussi toute la ceinture périphérique, si vous voulez, de la France, qui recherchait des libertés qu'elle n'avait plus à la suite de l'annexion ou de la conquête de leur territoire par le centralisme français et son administration centraliste. J'ai dirigé moi-même pendant 2 ans une revue qui s'appelait Peuples et frontières et qui était la tribune commune des mouvements autonomistes ou nationalistes ou fédéralistes qui existaient dans l'hexagone français et qui petit à petit débouchaient aussi vers d'autres pays de l'Europe. Car la France n'était pas non plus unique en son genre. Mes voyages d'Europe centrale avant la guerre m'avaient montré que, au lieu de créer une sorte d'organisation fédérale de l'Europe, les nouveaux États qui avaient répondu à ce besoin de liberté des peuples, comme les Tchèques, ou les Slovaques, ou les Serbes, ou les Croates, avaient abouti à la création d'un certain nombre d'États.